Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on va parler de deux sujets qui sont liés. C'est la paracha, bien sûr, comme chaque semaine, et aussi les mois où on est en train de rentrer. Ce soir, donc, jeudi soir, aujourd'hui, on est le 27, donc ça va être ce soir le Rosh Chodesh, ça veut dire la fin et le début du mois de Hadar, que c'est un mois exceptionnel. On va voir un petit peu quelques fois les fois qui les lient ensemble. Mais en tout cas, si on commence par la paracha nous parle de quelque chose d'exceptionnel. C'est que Dieu demande à Moshe, Moïse, de demander au peuple d'Israël qui était dans le désert de lui construire une habitation. Immobilier, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a besoin d'un endroit où résider, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il est partout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'endroit où peut quelque part satisfaire Dieu, Dieu qu'il est infini? Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser sur cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire une maison pour Dieu? Et effectivement, dans l'esprit spirituel, on ne limite pas. Il y a la maison de Dieu, elle est partout. Il y a des synagogues, il y a des endroits qui est réservé pour ça, et même chaque maison peut être un endroit pour Dieu, donc quelque part on n'est pas limité. Et pourtant, dans la Torah, on les limite. Ça veut dire que c'est un endroit dans le monde, il n'y a pas deux. Et dans cet endroit, Dieu il va résider, et si on rentre dans les détails, la Torah nous donne beaucoup de détails, c'est très intéressant. D'ailleurs, on apprend beaucoup pour l'architecture. La Torah nous rentre dans les petits détails, comme si on apprend, c'est pas comme si on apprend la construction, comment construire, jusqu'à une petite millimètre près. La Torah, elle insiste, pardon, et Dieu, il demande que ce soit comme ça, pas autrement. Donc, il y a beaucoup de détails, on se demande pourquoi un grand Dieu, il rentre tellement dans les petits détails. Donc, toutes ces questions, on va essayer de parler un petit peu, parce que le sujet est large. Mais encore quelque chose qui est très bizarre ici dans cette histoire, c'est que Dieu, il demande des dons. Il faut donner, il faut financer cette maison. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement riche, qui demande de financer son projet. Et chacun, il donne quelque chose. Et pourtant, celui qui peut financer largement, pourquoi il demande à chacun? Ça aussi, c'est une question qu'on va essayer de voir. Maintenant, donc, dans cette paracha, il y a, comme on a dit, il y a des détails. Dieu, il insiste qu'il veut ça, 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 ça. Et les mesures exactes. Et si les mesures n'est pas exactes, ça ne va pas fonctionner. Et on demande des matériaux différents. Pour ces bâtiments, on a besoin de l'or, on a besoin de l'argent, on a besoin de cuivre, on a besoin d'autres choses, de bois qui étaient d'ailleurs des bois 48, il me semble, bois sur 1,5, donc sur plutôt, ça veut dire 5 mètres à peu près, sur. Sur 75 centimètres. Oui, quelque chose comme ça, à peu près, oui. 80 centimètres, donc 1 mètre sur 80 centimètres. Ou quelque chose comme ça, en fait, je ne suis pas exact. Et donc, on a 48 comme ça, ça fait que le temple de désert va avoir à peu près 15 mètres sur 12 mètres, il me semble. En tout cas, il y a une précision. Et la précision est très exacte dans tous les détails. On se demande pourquoi cette précision. C'est qu'on va toucher un petit peu cette question. Alors, donc on a posé la question, pourquoi on a besoin des dons de chacun, même les pauvres. D'ailleurs, parmi les dons qu'on trouve, alors la Torah, il y a certains dons qu'on dit que tout le monde va donner les mêmes sommes. Donc c'est ce que s'appelle Mahatzit HaShekel, le demi-shekel. Le riche, il ne doit pas donner plus, le pauvre, il ne va pas donner moins. D'ailleurs, cette paracha de Mahatzit HaShekel, de demi-shekel, c'est dont la Torah ne précise pas ici, elle va préciser plus tard, dans deux Shabbatot. Et déjà, ce Shabbat, on va le lire, pas parce qu'on est dans l'ordre de la Torah, mais parce que on est dans l'ordre, puisqu'on est à la veille de Adar, ça va être Rosh Chodesh Adar, parce que Rosh Chodesh Adar, la tête d'Adar, ça va être cette fois-ci vendredi et samedi. Donc samedi, on va lire cette paracha qui parle des Shkalim, donc cette mitzvah, ce devoir de donner une demi-shekel. Alors même si cette mitzvah, elle n'a pas vraiment... elle ne fonctionne pas aujourd'hui parce que c'était réservé pour financer le sacrifice de toute l'année. Et aujourd'hui, on n'a pas de sacrifice, on n'a pas de temple. Mais quand même, on a l'habitude de donner pour rappeler de cette mitzvah, même si aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas cette loi. En tout cas, ici, dans notre paracha, il est marqué qu'il faut donner, il est marqué trois fois le mot Trouma. Trouma, ça veut dire... si on peut traduire comme le mot don, ou bien autrement, mais en tout cas c'est la même idée, et il y a trois sortes de dons, il y a deux fois, Mahatzit HaShekel, deux fois le demi-shekel que chacun doit donner, en tout cas les sommes pareilles, et il y a ensuite ce qui dépend de la bonne volonté de chacun, celui qui veut donner plus, alors il a une liste de choses qu'il doit donner. C'est lui qui peut donner moins, alors il peut ne pas donner ou donner très peu. Donc on a deux sortes, en général, des dons volontaires et des dons obligatoires. Alors, on a posé pas mal de questions, mais on va commencer par la première question. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a besoin d'une maison dans ce monde? Pourtant, Dieu il est partout, seulement que nous, on ne le voit pas, mais Dieu il est partout. Alors la première question, on va donner deux réponses, même si on peut développer beaucoup cette idée. La première chose, c'est que vrai que Dieu il a créé le monde, il me semble qu'on parle de ça souvent. Dieu il a créé le monde de la manière qu'on peut l'ignorer. On est dans un monde où on ne comprend pas le monde. Pour comprendre le monde, il faut étudier, il faut chercher. Visiblement, on comprend à la première vue, je vois quelque chose, je ne comprends pas ce que c'est. Tant que je n'ai pas appris la chose. Parfois, je peux voir une chose, comprendre le contraire. Donc, alors, on est dans un monde mystérieux. Dieu, il a créé le monde d'une façon mystérieuse. Alors, si le monde est déjà qu'il est assez visible, il est mystérieux. Alors, bien sûr que c'est lui qui a créé le monde, il est mystérieux. Maintenant, il y a quand même un endroit dans le monde que dans cet endroit, on peut voir la présence de Dieu. Et ça, c'est le temple. Donc, alors, ça, c'est un sujet qu'on peut développer. Et ensuite, il y a un deuxième sujet. Que c'est vrai que pourquoi il a choisi un endroit dans le monde et pas partout. Donc, la volonté de Dieu était que le monde il soit caché, comme on a dit, qu'il soit pas visible, ni le monde il soit compréhensible. Et ni, bien sûr, Dieu qui a créé le monde qu'il soit visible pour la raison que... il le sait lui-même, mais il a choisi quand même un endroit. Donc lorsque c'était dans le désert, alors c'était un endroit, mais un endroit qui n'était pas encore fixe. Lorsque le peuple d'Israël, après les 40 années dans le désert, ils ont entré dans la terre de Canaan, donc il y avait des différents endroits qui ont changé, jusqu'à le moment où ils ont compris que l'endroit était... à Jérusalem, c'est David qui l'a acheté cet endroit, sur le mont des temples, et ensuite son fils Shlomo, il a construit le temple dans cet endroit, et à partir de là, l'endroit unique de la présence de Dieu, ce qu'est cet endroit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le temple est détruit et donc on n'a pas cette idée, mais on a plutôt l'idée spirituelle de cette chose, comme on va voir tout de suite. Mais à l'époque, il y avait carrément une révélation divine dans un endroit. Alors, il y a quelque chose, pourquoi un endroit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette idée, les gens qui sont très croyants, mais ils ont du mal avec les notions de le fait que Dieu il est lié avec un endroit, à tel point que tout le système le dérange. Alors, parmi les réponses, c'est que qu'est-ce que si on doit définir Dieu ou la divinité d'une façon générale, de quelle manière je le définis? Alors, il n'y a pas une manière qu'on peut le définir. Parce qu'on peut pas, il n'est pas quelque chose, il n'y a rien qui peut le définir. Si on va définir comme quelque chose de non limite, non limité, ce n'est pas une définition comme on sait que de même qu'il n'est pas infini, il n'est pas fini. Donc il n'y a rien qui le définit, parce qu'il n'est pas défini, il n'est pas à définir. Alors quelque part, si on imagine un endroit qui rassemble les deux idées ensemble, le fini et l'infini, alors à ce moment-là, ça c'est un endroit où quelque part ça exprime la divinité. C'est un petit peu compliqué, je sais, mais on a quand même des exemples dans notre vie qui montre un petit peu, en tout cas, cette notion que dans notre monde, l'infini ne définit pas Dieu, le fini ne définit pas Dieu, mais le lien entre l'infini et le fini, ça, on peut trouver Dieu. Encore, il faut faire attention parce que c'est juste un point, c'est un point qui a besoin d'un développement, bien sûr. Donc, alors, normalement, notre monde, il est défini par le fait d'être fini. Chaque chose dans notre monde est très, il a ses limites, et c'est ça qui caractérise notre monde, le fait qu'il y a des limites partout. La limite, ça dépend, parfois la limite est plus large, parfois la limite est plus limitée, mais ce qui définit notre monde, c'est la notion de limite. Si je suis ici, je ne suis pas là-bas, si c'est maintenant, ce n'est pas après. Alors, dans cet endroit, et ça c'est notre monde, donc quelque part, si on veut trouver, associer Dieu dans ce monde, ça ne marche pas, si on peut dire comme ça. Bien sûr qu'on associe Dieu dans tous les domaines, mais quelque part, c'est une opposition, parce que notre monde, il est très limité, et dans la limite, les non-limites, il ne peut pas normalement s'exprimer. Parce que si les non-limites s'expriment, ils détruisent les notions de limites. Et pourtant, il y a un endroit dans le monde où Dieu il a choisi, que là, quelque part, c'est la rencontre entre limites et les non-limites, et ça, c'était dans le temple. Et c'est pour ça qu'il est marqué qu'il y avait 10 miracles. La notion de miracle, c'est justement le lien entre les limites et non-limites. Ce n'est pas la notion de non-limites, mais c'est la notion que, quelque part, les limites, ils arrivent à être exprimés, ou non, à exprimer les non-limites. Il y a un mariage entre limites, si on peut l'appeler comme ça, entre limites et non-limites. Et le maquet donne le livre, le maquet cet exemple, on a parlé de 10 choses, mais parmi les choses, et peut-être le plus important, c'est que la Torah, comme on a dit tout à l'heure, elle nous demande des limites. Donc, il dit, par exemple, que dans l'endroit le plus saint, il y avait ce que s'appelle le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Là-bas, il y avait des limites. L'arche, on a vu tout à l'heure qu'à l'intérieur, on a parlé des 12 coudées, on va dire. Il y avait une mesure à l'intérieur. Une mesure qui s'appelle diamant, à l'époque on a compté avec le korima, amas, c'était le coudé. Il y avait 10 coudés entre mur et mur dans le saint des saints. Dans la largeur du saint des saints, il y avait diamant, donc c'est à peu près 5 mètres entre un côté et l'autre. L'arche, il a pris 2,5 sur 10, donc il nous manque 7,5. Si on va donc mesurer depuis le mur de l'arche d'un côté et de l'autre côté, on devrait trouver normalement trois amotes. Je parle d'amotes, trois amotes, trois quarts. Trois amotes, trois quarts et trois amotes, trois quarts, ça va faire 7,5. Et finalement, on a trouvé 5 et 5. Ça veut dire, de là, on apprend que l'endroit de l'arche, il n'était pas compté, parce que l'endroit de l'arche, il n'a pas pris de place. Bien sûr que là, ici, on parle de miracles, mais le miracle, il a une notion. Quel est le sujet? Il y a des miracles. Aujourd'hui, normalement, dans notre monde, il doit se construire. Il est marqué que Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Normalement, les miracles, c'est quelque chose qui est opposé à la façon comment le monde doit se conduire, parce que Dieu il a créé un monde limité, donc il doit rester limité. De temps en temps, il y a des miracles, mais normalement, il doit être conduit d'une façon naturelle. C'est pour ça que c'est lui qui compte sur des miracles. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut arriver, mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'on est dans un système de limites. Et pourtant, dans cet endroit, justement, qui va être l'habitation, là où Dieu il habite. Alors, ça, c'est là on trouve le lien entre limite et non-limite. Et justement, pour avoir le non-limite, on devrait avoir les limites. Alors, encore, c'est un petit sujet qu'il faut développer encore. Donc, c'est ça un petit peu la notion d'une résidence pour Dieu, parce que ce qui peut, quelque part, faire accepter, ou je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour dire que là où Dieu il peut habiter, c'est un endroit où il y a un lien entre limite et sans limite. Et normalement, dans notre monde, ça n'existe pas, parce que la notion de notre monde, c'est la notion de limite. Et il y a peut-être des mondes où ils sont plutôt, parce que si on parle de monde, c'est déjà la notion de limite. Mais on peut imaginer quelque chose qui est non limite, là aussi Dieu il n'habite pas, parce qu'il n'est pas limité ni par les limites et ni par les non-limites, mais justement, il habite là où il y a les notions de limites et qu'il accepte que quelque part, il y a un lien entre limites et non-limites. Bien, c'est compliqué. C'est compliqué aussi à imaginer des choses pareilles, parce que dans notre monde, on n'a pas beaucoup d'exemples. On a quand même quelques exemples qui, là par contre, il faut un petit peu faire plus d'études par rapport à ça, mais il me semble qu'on donne l'exemple par exemple des cerveaux. Il est marqué dans le Talmud que dans notre monde matériel, c'est le contraire du monde spirituel. Le monde matériel, si on a une place, si on a une place vide, alors tant qu'il y a la place vide, on peut profiter, on peut remplir. Une fois que le récipient est rempli, on ne peut plus remplir. Mais dans le monde spirituel, c'est le contraire. Plus qu'il y a de vide, plus moins on peut remplir, plus que c'est rempli, plus qu'il y a, on peut remplir encore. Et l'exemple qu'on peut donner peut-être, c'est plutôt le cerveau. Dans le cerveau, on voit que plus que le cerveau est rempli, alors là aussi, il faut faire attention, mais c'est plutôt ça. Plus que le cerveau est rempli, plus qu'il y a des places. Moins il est rempli, donc ça veut dire moins on utilise le cerveau, moins il y a de la place. Donc alors ça peut être un exemple, ou peut-être d'autres exemples dans cette notion, qu'il y a un lien à ce que nous appelons limite et sans limite. Alors, c'est ça l'idée que donne cet endroit, Dieu, il réside. Maintenant, bien, on a touché d'une façon très générale. Maintenant, même si on parle d'un endroit, là où il y a ce que s'appelle la Shrina, donc la présence de Dieu, un endroit, il n'y a pas deux endroits, il y a un endroit. Mais d'une façon plus large, on dit que l'homme, chaque personne, il est un petit monde. Ça, c'est une vision générale. Tout le monde, tout ce qu'on voit autour de nous, on peut trouver chez l'homme. Et donc, dans la chassidoute, dans le Tania, que c'est la base de la chassidoute, qui est aussi, c'est très intéressant, c'est un excellent livre de philosophie et aussi qui explique qu'est-ce que c'est l'homme, comment on peut comprendre l'homme, les problèmes, les solutions. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se basent sur ça pour expliquer pour leur travail psychologique. Il y a beaucoup de livres guérir par les Tanya, ou bien il y a d'autres livres qui étaient faits par des professeurs différents, qui ne sont pas forcément religieux, mais ils ont utilisé les Tanya pour eux. Alors, dans les Tanya, on explique l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? Bien sûr, les qualités et les défauts de l'homme. Et on explique aussi, comme on a dit, que l'homme, c'est un petit monde. Et donc, puisqu'on dit que dans le monde, il y a un endroit où Dieu il réside, alors là aussi, dans l'homme aussi, il y a un endroit où Dieu il réside. Alors, il y a des différentes explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme on explique les différentes choses qu'il y a dans le temple, il y a aussi dans le corps humain, comme l'arche, c'est peut-être l'étude, comme en fait, la menorah, ce qui éclaire, c'est une autre notion chez l'homme, etc., etc. Mais aussi, il y a quelque chose aussi important, cette notion, que la rencontre entre, comme on a dit tout à l'heure, les limites et les sans-limites. Parfois, on attend de l'homme de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est ça le lien avec Purim. Il y a 12 mois dans l'année. Chaque mois représente une notion. Chaque mois, c'est une notion différente. Le rôle de ce mois, ce n'est pas comme le rôle de l'autre mois, mais le rôle de Purim est carrément différent. Quelque part, de faire l'impossible. Faire l'impossible, ça va dire aussi beaucoup de choses, mais si on connaît l'histoire de Purim, que quelque part il s'étale à tous les mois d'Adar, d'ailleurs il est marqué que le mois d'Adar, depuis qu'il rentre le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Il faut trouver un moyen de rajouter dans la joie. Donc, alors pourquoi? Parce que c'est le mois de Purim. Cette idée, on ne trouve pas dans d'autres notions. C'est par exemple Hanouka, pas tous les mois, c'est Hanouka. Le mois, c'est un mois qui se lève, et pourtant, pendant le mois, il y a une fête. C'est pareil aussi pour les autres fêtes, même celles de Shavuot, même celles de Pessah. On ne dit pas que tous les mois, il y a certaines notions, mais on ne dit pas que depuis. Qui commence le mois de Nissan, il faut rajouter dans la joie. Quoique. Mais par contre, pour le mois d'Adar, il est marqué que depuis que le mois d'Adar entre, il faut rajouter dans la joie. Et pourquoi? Alors, on va voir le pourquoi peut-être après, mais ça veut dire que les notions d'Adar, c'est une notion extraordinaire. Ce qui s'est passé au mois d'Adar, que malheureusement on l'a vécu encore et encore, on l'a vécu encore et encore, cette notion de vouloir effacer le peuple juif, et cette notion qu'on fait parfois des choses extraordinaires, inhabituelles, et grâce à ça on se sauve. Parmi l'histoire, parmi les détails de Pourim, et encore cette histoire qui s'est répétée plusieurs fois, c'est que Haman de l'époque, donc on est 2400 ans environ en arrière. Haman voulait exterminer tout le peuple juif. Il n'y a pas de différence entre plus religieux, moins religieux. On connaît cette notion. Si grand, petit, femme, homme, enfant, il a voulu tout exterminer. Et à ce moment-là, d'un coup, même si le peuple juif à l'époque était différent, chacun il a pratiqué d'une autre manière ou il n'a pas pratiqué, ou ils ont été égarés carrément. Mais à ce moment, ils se sont tous revenus, ils ont révélé leur foi le plus pur, le judaïsme le plus pur qui dépasse l'acte. ce qui appartient à quelque chose, ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient au peuple juif, qui dépasse tout le niveau. Alors c'est ça qu'on dit comme ça aussi dans les temples, si on vient en temple, il y a des différents niveaux. Il y a là qui donne plus, il y a là qui donne moins, mais il y a certains domaines, dans certains domaines, on est tous pareils. Comme dans la vie, il y a des différences sociales, il y a des différences intellectuelles, il y a des différences dans plusieurs domaines. Et chacun, il doit développer sa capacité. Et parfois, si dans certains domaines, j'ai une capacité, je dois la développer et au maximum. Et dans certains domaines, puisque je n'ai pas cette capacité, parfois c'est dommage que je mette du temps à développer, puisque de toute façon, ce n'est pas mes capacités. Si quelqu'un qui chante fort, il va devenir un chanteur, bien, peut-être ça va réussir, mais normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Par contre, il y a des domaines où on est tous pareils. Donc, alors, dans le judaïsme, on développe les deux notions. Il y a certains domaines où on a des différences entre l'un et l'autre. Le judaïsme, il veut qu'on développe les différences. Si tu es riche, tu donnes ça. Si tu es pauvre, tu donnes ça. C'est une grande question. Pourquoi il y a des différences entre riches et pauvres? Mais c'est une réalité. Donc, alors, chacun doit participer selon ses moyens. Mais d'une autre part, il y a un point où ça dépasse les différences entre riches et pauvres, entre religieux et pas religieux. Il y a un poids du judaïsme, mais d'une autre part, on peut l'élargir à cette notion d'un point humain, que là, on dépasse toutes les différences. Et ça donne, comme on a dit tout à l'heure, que la Torah nous demande de faire un don. Pourquoi faire un don? Parce que tout le monde doit participer. Dieu peut se débrouiller sans nous, bien sûr, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que chacun il participe à l'œuvre de Dieu. Chacun, il doit, ça dépend de lui, et chacun il doit absolument participer à cette idée. C'est pour ça qu'il y a une question, pourquoi la Torah commence par l'or? L'or, on n'a pas tous. Il faut demander, donne ça. Si tu peux plus, donne ça. Si tu peux plus, donne ça. Mais ici, la Torah, elle commence par l'or. Ensuite, elle diminue. Alors, le symbole de cette idée, en plus de l'idée simple, le symbole de cette idée, qu'on est tous riches. Ça veut dire qu'on a des qualités, des différentes qualités. Il y a un qui a beaucoup d'argent, il y a un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il a des cuivres. Et il y a d'autres choses. Au niveau spirituel, ça veut dire beaucoup de choses. Il a ses qualités, l'autre il a ses qualités. Celui qui a ses qualités, parfois il n'a pas du tout de l'autre qualité. Celui qui a ses qualités, parfois il n'a pas du tout de l'autre qualité. Il ne faut pas se décourager. Si tu n'as pas cette qualité, si tu as l'autre qualité. Mais il y a un point où on est tous riches. Ça veut dire qu'on a un point qu'on est tous. Seulement qu'il faut trouver cette richesse. Cette richesse, c'est cette unité qu'on a à l'intérieur. Qui dépasse tout. Cette unité, elle sort parfois au moment spécial, au moment exceptionnel, où d'un coup on est unis, où on pense pareil, on est tous des frères. C'est dommage qu'on arrive à ce moment seulement pour révéler cette idée. Au moment de Purim, là on a trouvé cette unité où d'un coup on est tous pareils, on n'a pas de différence, mais on a trouvé quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Ensuite, une fois qu'on a révélé ça, il y a d'autres qualités que chacun doit révéler. C'est ça un petit peu l'idée de notre paracha. Elle est liée avec Purim, donc on va essayer de résumer. C'est que la Torah nous demande de donner de soi-même. Et avec chaque chose que chacun donne, il construit un temple pour Dieu. Mais ce qui est le plus important quelque part, quand on fait un effort extraordinaire, quelque chose qu'habituellement, on ne sait pas qu'on a cet effort. On ne sait pas qu'on a ces capacités. C'est en petite mesure la notion de lien entre mesure et sans mesure qu'on a parlé tout à l'heure, entre limite et non-limite. Quand quelqu'un qui, dans ses limites à lui, il arrive à briser les limites, à faire un petit peu plus de ce qu'habituellement il a. Et en moment spécial, on révèle cet poids. Nos limites qu'on a chez nous, ce poids, d'ailleurs, beaucoup de gens racontent qu'au moment spécial, au moment des dangers ou bien d'autres, là, on révèle des forces qu'on n'imaginait pas qu'on a. Alors, malheureusement qu'il faut arriver à ce moment, mais c'est un moment où on révèle nos limites qui est relative, bien sûr, parce que tout est limité dans notre monde. Mais quand on dépasse notre limite, ça s'appelle nos limites qui se trouvent dans nos limites, et c'est là où Dieu il réside. Donc alors, la Torah, elle aime quand les gens ils font des choses extraordinaires, qu'ils font plus qu'ils peuvent, et ça c'est la notion de nos limites qui se trouvent dans les limites. Et donc, alors, si on résume cette idée, où Dieu il réside, dans chaque bon acte qu'on fait, même si ce n'est pas nos limites. Chaque petit mot gentil qu'on dit à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très important. Et parfois, un petit mot, ça aussi c'est un exemple, les petites limites qui font les nos limites, parfois on dit un petit bonjour à quelqu'un, et grâce à ça, on a changé sa journée, toute la journée il est bien. Et parfois on dit il y a un mot qui vexe, et toute la journée il est mal. Et pourtant, qu'est-ce que je fais? Je dis un mot qui vexe, ou un mot qui encourage. Et pourtant, donc alors ces mots qui durent 5 secondes, changent une journée entière, qui est parfois de vie. On dit un mot, c'est arrivé que parfois quelqu'un disait un mot gentil à quelqu'un, il a changé la vie. Et ça, c'est un exemple de quelque chose qui est un petit limite. Dans ces limites, il y a quelque chose de fort et de non limite qui se trouve. Et là où Dieu il réside. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas. Ça, c'est d'une façon générale. On n'a pas le temple. Il y aura un moment où il y aura avec Mashiach le temple, et à ce moment-là, le monde il va changer. Il va changer parce que ça va être un moment où on va comprendre notre monde, on va comprendre, on va voir un petit peu plus que le bout de notre nez, on va voir plus large, on va comprendre les qualités des uns et les qualités des autres, donc on va vivre plus ensemble que jusqu'à là. Ça va être un monde de paix, ça va être un monde bien. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.